allions jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Et le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez. Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu. Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Être de la vie, prisonnier du tombeau, venez, adorons-le. Regardez pour moi, Seigneur.
Lui le Christ visite la mort, les morts, toutes nos morts. C'est d'abord un jour pour apprendre à se déprendre du temps. Aujourd'hui, Jésus sort du temps pour visiter les âmes qui sont hors du temps. Faisons l'offrande de nos impatiences. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui traînent, car le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et 1000 ans sont comme un jour, comme le dit l'Écriture, ou comme le dit encore Isaïe, « Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite. » Voyons le temps comme un moyen pour Dieu pour nous rencontrer. Le péché du tout de suite est le péché originel. Demandons aujourd'hui la grâce d'entrer dans le temps de Dieu pour tous nos désirs, de comprendre le temps comme un allié plutôt que comme un ennemi, comme une création de Dieu pour le rencontrer, comme le lieu de sa présence. Aujourd'hui, c'est aussi un jour pour lui redonner le temps qu'il nous confie. Ne pas avoir de temps pour Dieu, c'est vivre en perdant son temps, disait le curé d'Ars. La vie de prière nous paraîtrait plus simple si nous acceptions qu'elle ne soit au fond qu'un temps pour se placer sous son regard bienveillant, transformant, vivifiant, ressuscitant. Aujourd'hui, c'est aussi une journée pour renoncer à l'activisme et à l'efficacité, pour choisir la fécondité. Pour, à l'image de Marie, poser l'acte de foi que la meilleure chose que je puisse faire, c'est me laisser conduire par l'Esprit-Saint. Comme Marie l'a fait toute sa vie, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est aussi un temps pour écouter, puisque Dieu se tait, et dans l'Écriture, il se tait avant de dire quelque chose d'important. Il s'agit de faire silence pour être sensible à la parole que le Seigneur veut nous adresser à chacun le jour de Pâques. Et nous verrons cet après-midi que c'est un temps pour faire mémoire aussi. On verra comment Marie nous apprend à écouter et à faire mémoire. Mais ce matin, on va parler de la descente aux enfers, de ce que le Christ a traversé, de ce qu'il vit en étant mort, de ce qu'il assume, de ce qu'il sauve. Donc, une remarque préliminaire, on voudrait relire avec vous les versets 38 à 42 dans Saint Jean, chapitre 19. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était le disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et ils enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Jésus a prophétisé dans Saint Jean plus tôt, « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et on commence dès ce moment-là à voir que ça, dans sa mort, c'est exact. Ces deux hommes, Joseph et Nicodème, se cachaient du temps de la vie de Jésus. Et au pire moment, ils ne se cachent plus quand leur rabbi, mort comme un criminel, est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie vient demander l'autorisation aux officiels. Nicodème opère un embaumement royal. Donc la mort de Jésus est le centre d'un début de petit rassemblement des hommes, d'une petite ecclésia. On voudrait aussi noter l'ensevelissement qui est relaté par les quatre évangiles, l'embaumement du corps et son ensevelissement. Jésus est mort, Jésus est vraiment mort. On a fait une toilette mortuaire, on l'a mis dans un tombeau. Son corps est séparé de son âme, il est vraiment mort. C'est un article de foi de retenir que Jésus est mort, parce que s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité.
Vous pourrez acheter Paris Match parce qu'ils ont enfin compris dans le monde scientifique que le linceul de Turin était indubitablement authentique. C'est une bonne nouvelle. Je pense que ça vaut le coup de regarder cet article et de méditer avec le linceul de Turin. Il y a de beaux enseignements sur ce sujet-là pour comprendre toute la passion et puis aussi cet être mort de Jésus dans lequel on va essayer de rentrer aujourd'hui. Je reviens sur juste ce point, le fait que l'embaumement et l'ensevelissement soient relatés par les quatre évangiles, c'est suffisamment rare que les quatre évangélistes racontent la même chose, le même fait et de la même manière. C'est donc absolument capital. Et nous rentrons aujourd'hui dans le fait que Jésus est mort. C'est quelque chose qui nous répugne, en fait, nous n'y croyons pas quand on réfléchit profondément. Mais aujourd'hui, Jésus est mort. Et c'est ça qu'on va essayer de méditer. On vous a mis sur le petit livret pour suivre les topos des tas d'autres versets de l'Écriture sainte qui confirment cet être mort. Donc en Pierre, étant allé, donc étant mort, il prêcha aux esprits en prison. Voilà, il y a Paul aussi qui en parle pas mal aussi. Matthieu, chapitre 12, verset 40, qui fait référence à Jonas, qui fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Ainsi, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Et puis l'Apocalypse, qui nous rappelle « J'étais mort et me voici vivant ». Donc ce qui est très clair, c'est que Jésus a traversé la condition des hommes morts. Ceux qui étaient là hier se rappellent de cet adage de l'Église primitive qui dit « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Et le Seigneur a assumé notre condition d'être mort. Sinon, il ne peut pas nous en sauver. C'est ça que nous vivons aujourd'hui, sur lequel nous allons essayer de méditer. J'étais frappée tout à l'heure de la lecture aux Hébreux, chapitre 4. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais nous avons un grand prêtre éprouvé comme nous en toutes choses, excepté le péché. Notre grand prêtre, le Christ, n'est pas incapable de compatir à notre être mort. Il le vit, il l'expérimente également, puisqu'il ne s'agit plus de vivre, mais de mort. Il expérimente également cet être mort. Sa solidarité avec le genre humain est allée jusque-là, pour pouvoir nous en sauver. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que son âme s'est séparée de son corps. Donc, à cause de cette séparation, il vit cet état de faiblesse extrême, maximale, de passivité totale. On va en reparler. C'est le point le plus bas de ce qu'on appelle la kénose du Christ. Vous savez, cet abaissement. Le dépouillement, oui, ce dépouillement du Christ. C'est l'état le plus bas de ce dépouillement. On commence déjà et encore à vivre des prémices de la résurrection, mais c'est important pour nous aujourd'hui, notamment dans le silence, de consentir à ce que le samedi saint soit le point le plus bas du dépouillement du Christ. Dieu a accepté d'être un cadavre. Lui qui est la vie, le maître de la vie, le voit la mort, parmi les morts, dans cette radicale impuissance. Lui qui, par amour pour nous, s'abaissant déjà, renonçant déjà à la condition divine, a pris notre humanité, il va jusqu'à être dépouillé de cette humanité, de cette vie humaine. Dieu se rend solidaire des hommes devenus cadavres en décomposition. Voilà, Dieu est mort. Dans cette mort, il y a autre chose à comprendre que l'humiliation corporelle dont nous venons parler. Vous vous rappelez, hier, on a évoqué la souffrance extrême du Christ qui expérimentait la séparation d'avec le Père, qui vivait cet abandon de Dieu. Le samedi saint montre encore une fois comment le Christ a assumé cette séparation d'avec le Père. En traversant cette condition mortelle, il est arraché à la puissance divine, puisque Dieu est la vie. Dieu est-il encore Dieu dans la mort ? En fait, la mort du Christ semble être comme le triomphe de l'athéisme. Vous vous rappelez Nietzsche, Dieu est mort ? Ben c'est vrai, aujourd'hui, Dieu est mort. Le samedi saint consacre-t-il l'athéisme ? On vous a mis cette citation de Nietzsche, « Dieu est mort, Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux tout simplement ? » Est-ce que notre société aujourd'hui ne vit pas un immense samedi saint ? Nous tuons Dieu et nous pensons devoir devenir Dieu à sa place. Mais le Christ sauve ce qu'il assume. Le Christ est mort, il traverse cette condition mortelle. Il a assumé aussi cette mort philosophique de Dieu telle qu'elle a été pensée au XIXe siècle. C'est-à-dire la mort de Dieu dans l'esprit des hommes, dans l'esprit du monde. Il l'a traversée aussi. Donc il nous en a sauvés. Alors ne désespérons pas, aujourd'hui est le jour de l'espérance par rapport à l'athéisme de notre temps, par rapport à notre solitude comme croyants. Elle a été, elle aussi, traversée par le Christ. Et parce qu'elle a été traversée par le Christ, elle est vaincue. Le Christ est descendu aux enfers. Quand nous affirmons ceci, que croyons-nous ? D'abord, ce que le Christ assume, on ne peut pas dire ce que fait le Christ, puisque le Christ, justement, est dans cette passivité. Précisément, il ne fait rien. Mais pour autant, il se passe des choses. Le Christ traverse l'expérience des enfers, l'expérience infernale. On l'a déjà dit, il vit, il expérimente ce qui lui est radicalement opposé. C'est la vie qui traverse la mort. On a souvent représenté dans l'iconographie, notamment chez nos frères orthodoxes, une idée de la descente aux enfers comme un combat chevaleresque. On a un Christ déjà en gloire qui se bat contre les forces de la mort et qui vient ainsi relever tous les vivants. On peut l'entendre aussi dans cette grande homélie du samedi saint que nous avons entendue ce matin. C'est vrai, mais comment le fait-il précisément en ne faisant rien ? L'image de Tolkien, Aragorn qui traverse la vallée de la mort, peut-être vous est-elle plus familière que le Christ aux enfers, ça donne aussi une idée de quelque chose. Mais là, Aragorn est vivant, et puis il a toute sa troupe, il a son épée. Alors, c'est vrai qu'il ne se bat pas, mais il est vivant. Là, le Christ est mort. Le Christ est mort. Jésus a traversé la mort pour de vrai. Balthazar, qui est le théologien qui a pensé le plus la théologie du samedi saint, dit que le Christ soit réellement mort, donc qu'il n'utilise pas ce temps de sa mort pour toutes sortes d'activités dans l'au-delà, c'est le premier point qu'il faut ici considérer. Il est vraiment solidaire des morts, chacun gît dans son tombeau. Aujourd'hui, essayons de contempler le Seigneur qui gît dans son tombeau, qui a assumé cet état de cadavre. Et en assumant cela, eh bien, la première expérience, c'est la pire des solitudes. Le Christ est séparé de son corps. Il est même séparé de sa mémoire. Ce sont nos sens qui font notre mémoire. Donc cet état de faiblesse et d'humiliation extrême, cette expérience d'amnésie du Christ souligne sa radicale solitude. Ce qu'on a chanté dans les psaumes ce matin, notamment, je crois que c'est dans le 63, c'est que dans le Shéol, dans les enfers, pas une parole d'amour ne pénètre. Les psaumes le disent, et il y en a beaucoup qui le disent. Donc finalement, la solitude de la passion qu'on a évoquée hier n'était peut-être pas la pire. En tout cas, il y avait un cran à descendre encore. Nous y sommes aujourd'hui. Il y avait un semblant de vie autour du Christ dans sa passion. Dans sa mort, le Christ est seul, entouré du silence et de la mort apparemment triomphante. Il expérimente donc ce qui pourrait être le triomphe du péché, l'homme mort. La mort définitive, il traverse ce que peut être l'homme sans Dieu. On peut le toucher du doigt en Jean chapitre 11, verset 33. Vous savez, on en a déjà parlé hier, ce moment où Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Et on a déjà parlé hier du fait que le terme de vocabulaire qui était employé, c'est ce terme de bouleversement, d'angoisse profonde. Pourquoi Jésus, alors qu'il sait qu'il va réveiller Lazare, pourquoi est-il marqué de cette angoisse profonde? Les disciples lui disent « Viens et vois » Jean 11, verset 34. Et que voit-il? Il voit un cadavre. Il voit l'homme mort, enfermé dans la mort. Or, chez Jean et chez les évangélistes en général, les termes ne sont jamais hasardeux. Il y avait déjà eu cet appel à venir et voir en Jean, chapitre 1, verset 39. C'était Jésus lui-même, commençant sa vie publique, qui invitait les disciples « Venez et voyez ». Or, ils le suivirent et ils virent où il demeurait. Quand Jésus invite l'homme à venir et à voir, l'homme contemple Dieu qui vit parmi eux. Quand les hommes invitent Jésus à venir et à voir, Jésus contemple l'homme mort. Cette angoisse profonde est comme une pré-expérience que Jésus a faite de ce qu'il traverserait dans sa propre mort. Au lieu de Dieu vivant parmi les hommes, il a vu Dieu mort parmi les hommes morts. Il a vu cette victoire apparente de la mort, d'où son bouleversement.
Il y a un psaume qui décrit ce que vit le Seigneur. C'est le psaume 88, entre parenthèses 87. Je vais vous le lire. « Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, fléau. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi amis et familiers, ma compagne c'est la ténèbre. On lit ici la supplication de celui qui est congédié chez les morts, mis au tréfonds de la fosse, et qui décrit l'expérience du Christ mort. Le peuple d'Israël ne voit pas du tout la mort comme nous. Il ne la voit pas comme l'entrée dans la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Il la voit comme la ratification de la séparation de l'homme avec Dieu. Et comme le disait Juliette, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, a assumé cela. Dans la mort, on ne peut parler, on ne peut agir, on ne peut même se souvenir parce qu'on est privé de son corps. Dans la mort, le verbe devient silence, l'acte devient passif. Il n'y a plus d'anamnèse.
Ce que dit ce psaume, c'est qu'il n'y a plus de relation possible avec Dieu dans la mort. Or, l'alliance a été demandée par Dieu. Gardez cela et mettez en pratique, Deutéronome 5, 32. Donc l'alliance n'est plus possible dans la mort. La mort consacre-t-elle l'impossibilité de l'alliance ? Ce psaume 88-87 montre bien cette contradiction énorme de la mort de l'homme avec la promesse de Dieu. Il le dit, versets 11 et suivants, « Pour les morts fais-tu des merveilles, les ombres se lèvent-elles pour te louer ?» etc., etc. Cette idée que la mort est hors du règne de Dieu, on la retrouve ailleurs aussi dans le psaume 6, « Dans la mort, nul souvenir de toi, dans le Shéol, qui te louerait ?» Le psaume 115, en Isaïe 38, « Ce n'est plus le mort qui te loue, ni la mort qui te célèbre. Ils n'espèrent plus en ta fidélité ceux qui descendent à la fosse. » L'Église sait que les psaumes parlent du Christ, ou au moins que le Christ a assumé tout ce qui se dit dans le psaume. Ce psaume 88-87 est le seul psaume sur les 150 qui ne se termine pas par une parole de louange. Vous avez remarqué, on l'a lu, apparemment il n'y a que désespoir. Le Fils de Dieu s'est fait solidaire de cet état qui parle de la mort de l'âme. Alors, on se rappelle que ce qui est assumé est sauvé. Donc on est dans un apparent désespoir, mais réfléchissons au fait que le salut est déjà là. L'humanité du Christ aux enfers nous sauve. En fait, quand le Christ est aux enfers, mort parmi les morts, contrairement à nous tous qui sommes pécheurs, il est libre parmi les morts, comme le dit saint Irénée de Lyon, parce qu'il est libre de tout péché, lui. À cause de cette liberté, il triomphe déjà, même si ce triomphe éclatera dans la nuit entre aujourd'hui et demain. En fait, sur un des hommes morts parmi les morts, la mort n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de prise parce que cet homme est libre. Donc grâce à cet homme libre parmi les morts, l'humanité peut être refondée. Et puis, la divinité du Christ aux enfers nous sauve aussi. Dieu qui est la vie a traversé cette condition mortelle, alors la mort est dépouillée de toute sa puissance. Car Dieu ne cesse jamais d'être Dieu. Dieu est descendu dans le Shéol, qui n'avait pas accès à lui, comme le disaient les psaumes. Alors il n'y a plus de lieu où il n'y ait pas d'accès à Dieu. Il a rétabli la relation entre Dieu et les hommes là où elle était impossible. Cette vision du chaos par l'homme-Dieu est devenue pour nous la condition de notre vision de la divinité. Son exploration de la profondeur ultime a transformé ce qui était une prison en chemin. Son exploration de la prison ultime, de la profondeur ultime, a transformé ce qui était prison en chemin. Il est allé aux enfers, le séjour des morts, hein, c'est pas l'enfer de ceux qui refusent Dieu. Voilà, ce qu'on a dit sur la mort, sur la croix, saint Thomas d'Aquin disait, c'est une prise de possession de la mort par Dieu, c'est ce qui se passe dans le séjour des morts. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui, c'est que aucun lieu n'échappe à sa visite ou à son regard. Le Christ descend aujourd'hui dans les enfermements de nos vies, là où l'amour est absent, là où l'amour est radicalement absent, l'amour est descendu et il a demeuré. Depuis le samedi saint, il n'y a plus de lieu où il ne puisse y avoir de l'amour, car Jésus a tout visité. Il faut ce temps où le Christ demeure dans les périphéries de la vie. Il faut ce temps du samedi saint entre le vendredi et le dimanche de Pâques. Le Christ demeure aujourd'hui dans ces lieux où aucune parole de consolation ne nous atteint. Alors le Christ aux enfers assume ses différents sentiments. Le premier sentiment, c'est Dieu est mort, absent de ma vie. Il ne répond pas. Ma vie est une désolation. Nous pouvons nous remémorer ce chapitre d'Exode 33 dont nous avons lu quelques versets hier, où Dieu nous met au creux du rocher, au creux de son cœur. Dans ces situations, posons l'acte de foi que Jésus est avec nous dans ses enfers. Et que nous, dans le noir, nous sommes à l'abri dans le creux de son cœur. Attendons et espérons, c'est le moment où c'est le Père qui agit. Et nous, comme le dit ce chapitre de l'Exode, nous le verrons après, nous le verrons de dos, après coup. Aujourd'hui aussi, Dieu visite mes actes, mon activisme, mes actes désespérément inutiles, mon efficacité à tout prix qui sont des lieux d'enfermement aussi. Il visite aussi tous les actes qui sont considérés comme inutiles aujourd'hui. C'est particulièrement actuel. Je vous en ai quelques-uns. Si je suis mère au foyer, j'ai la plus noble activité du monde, car j'élève des êtres humains. Mais je peux être méprisée comme sans activité. Si je suis retraitée au chômage sans emploi, je souffre aussi de ce rejet de la société comme inutile. En plus de l'inquiétude de subvenir à mes besoins, on me fait sentir que je suis un poids, que je n'ai pas de place. Et si je suis malade avec toutes les décisions prises contre la vie, contre le malade plutôt que contre la maladie, aujourd'hui, l'on peut me faire sentir que je suis un poids pour les autres et que je n'ai pas droit à la vie. Satan est content de nous faire croire cela, que la vie n'a aucune valeur, parce que la société peut juger mes actions inefficaces. Or Jésus aux enfers retourne cela. Aux enfers, sa passivité est le sommet de l'amour. Et l'amour est fécond. Parce que Dieu nous dit dans la Genèse, soyez féconds et pas soyez efficaces. Jésus aux enfers m'enseigne ceci, où que je sois, quoi que je fasse, je suis aimé, et si j'accueille cet amour, si j'aime en retour, Je suis immensément fécond. Partout, en toutes circonstances, l'on peut aimer et porter du fruit, car l'amour a séjourné chez les morts.
Par exemple, le témoignage de saint Maximilien Kolb. Je vous rappelle qu'il a donné sa vie dans l'horreur des camps de concentration. Il s'est simplement laissé faire. Quelle fécondité. Le Seigneur aux enfers assume aussi le sentiment d'échec, notre sentiment d'échec, mon sentiment d'échec, mon sentiment d'impuissance et mon sentiment d'injustice. Aux enfers, Jésus a traversé le pire des échecs. Il a traversé le pire des « à quoi bon ?», la pire des trahisons. Le silence de la descente aux enfers doit nous inspirer. Notre silence et nos larmes dans les situations terribles valent mieux que la révolte. Le Seigneur aux enfers nous enseigne ceci. Le Christ aux enfers souffre la mort. Il est muet et incapable d'agir, mais il est tout remis au Père. Et le Père est là dans le secret, comme le dit Matthieu chapitre 6, verset 6. Lui ne cesse jamais d'agir par son Esprit Saint. Jésus aux enfers m'apprend que consentir à mon impuissance dans la confiance, c'est ce que je peux faire de mieux, c'est laisser les mains libres au Père. Troisième point que nous voudrions aborder pour méditer sur ce samedi saint, ce grand samedi saint, c'est l'analogie qui nous a été donnée aussi, la comparaison qui nous a été donnée dans l'office de ce matin avec le sabbat. L'Écriture sainte parle de ce jour du sabbat comme du jour du repos du Seigneur. Comprenons ce que ça nous dit sur le samedi saint. Le samedi saint était précisément le grand jour du sabbat. L'Écriture sainte le dit et le redit. Il y a donc un accomplissement par là aussi. Jésus accomplit quelque chose aussi. Le grand sabbat faisait mémoire de la traversée de la mer Rouge par laquelle Dieu a sauvé son peuple en lui faisant traverser la mer, symbole de la mort, sans qu'il ne soit affecté. Bien sûr, là, on comprend certaines choses qu'on a dites sur le samedi saint, mais il y a autre chose qui est assez frappant. Et on va se pencher sur la question du repos du Seigneur dont on a parlé pendant les laudes. La grande homélie du samedi saint, qui est si belle, dit « Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille ». Hébreux 4, dont on a reparlé aussi, lu ce matin, nous incite à rentrer dans le repos de Dieu pour ne pas louper le coche. C'est assez amusant, mais on se fait un peu secouer pour ne pas louper le coche du repos de Dieu. Craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un de nous n'arrive, pour ainsi dire, trop tard.
Alors ce samedi saint est le jour du grand sabbat pour les Juifs. L'institution du sabbat correspond à la sanctification du jour du repos de Dieu dans la création. Vous vous rappelez, au septième jour, et on le lira ce soir à la vigile, au septième jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, il chôma, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Saint Augustin demande « Dieu a-t-il besoin de se reposer ?» Le repos de Dieu, c'est son silence. Il n'y a plus de parole qui crée le septième jour. Ce silence, c'est l'achèvement de son action, l'accomplissement de ce qu'il a fait. Il parachève ce qu'il a fait dans ce repos. Il le sanctifie. Il fait entrer tout ce qu'il a créé dans sa propre vie divine. Ce septième jour correspond à la sanctification du temps. La remise du temps, de notre temps au Seigneur. Le temps appartient au Seigneur et le sabbat nous permet de comprendre que le temps est notre allié. Il est l'un des moyens d'action du Seigneur pour nous mener à lui. Donc, on dit que Dieu se repose le septième jour. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Dieu reste agissant. Et saint Augustin compare le septième jour de la création au samedi saint en disant « Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même confirmé le mystère de ce repos par celui de sa sépulture après avoir souffert la mort parce qu'il l'a bien voulu. En effet, c'est le jour du sabbat qu'il se reposa dans le sépulcre. Et c'est ce jour entier qu'il voulut consacrer à un saint repos, après avoir le sixième jour, c'est-à-dire le vendredi, qu'on appelle le sixième jour de la semaine, consommé toutes ses œuvres, quand tout ce qui avait été écrit de lui se fut accompli sur le bois même de la croix. C'est en effet le mot dont il se servit quand il s'écria « Tout est consommé », puis inclina la tête et rendit l'esprit. Mais Dieu opérait toujours, mon Père agit toujours.
Récapitulons ce qu'on a dit sur l'analogie avec le sabbat des Juifs. Le samedi saint accomplit, ça veut dire qu'il mène à sa perfection le grand sabbat, car Dieu est silencieux. Car Dieu semble inactif et en cela, il couronne, il parachève les actes du jeudi et du vendredi saint, le don de lui-même jusqu'au bout. Dans ce silence et cette apparence inactivité, en fait, le Père reste agissant dans le secret. Toutefois, il y a une différence inaugurée par le Christ entre le sabbat de la Genèse et ce grand sabbat du samedi saint. Dans la Genèse, il n'y a pas de soir au sabbat. Le septième jour, le rythme du soir et du matin, vous savez, cette ritournelle, il y eut un soir, il y eut un matin, elle s'arrête. Dans le récit de la création, il n'y a pas de matin qui suit le soir du sabbat. Or, il y aura un soir ce soir et il y aura un matin demain. Dieu aura de nouveau parlé. Il y aura une nouvelle création. Voilà la nouveauté du sabbat du samedi saint inauguré par le Christ. Terminons cette méditation en parlant du silence de cette journée. Obéissons à l'invitation d'Hébreux 4, verset 1. Craignons de ne pas rentrer dans ce silence, de le laisser passer. Comment ? La passion s'enfonce dans le silence petit à petit. Dans Marc, d'ailleurs, ce silence suscite l'étonnement. Marc 15, versets 4 et 5, et Pilate de l'interroger à nouveau. « Tu ne réponds rien, vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. L'évangile selon saint Luc insiste sur la logorrhée des hommes contre ce silence du Seigneur. Luc 23, 19, il l'interrogea avec force parole, mais lui ne répondit plus rien. Dans Jean, pendant sa passion, Jésus parle 5 fois pour affirmer quelque chose. Hier, pendant cette belle lecture de la passion selon saint Jean, le père Dominique n'a presque pas pris la parole et pourtant il a le rôle principal, ça frappe. C'est pour ça qu'il est bon de l'entendre aussi, ça frappe à l'oreille. Voilà. Et puis une fois, cette parole renvoie à la parole de Pilate et 6 fois, il pose des questions. Ce silence accomplit Isaïe 53, dont nous parlions hier aussi, 4e chant du serviteur souffrant, maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Ce silence porte donc lui aussi mystérieusement notre salut. parce qu'il laisse toute la place au Père. C'est le silence de l'obéissance et du consentement. Essayons de le choisir aujourd'hui, accepter cette forme de passivité contre l'activisme du monde, c'est choisir humblement de laisser le Père agir. Le Christ mort reste le Verbe de Dieu, celui qui l'exprime. Or aujourd'hui, le Christ choisit d'exprimer Dieu dans le silence, en se taisant. Le silence devient tellement le centre de ce qu'il énonce sur lui-même que nous avons à le comprendre comme sa révélation ultime, sa parole suprême. C'est pourquoi il est bon de nous taire, nous aussi, aujourd'hui, pour recevoir cette ultime parole silencieuse. C'est d'ailleurs pour cela que dans l'Église, il n'y a pas de liturgie le samedi saint. Comme on l'a compris en parlant du sabbat, ce silence du grand sabbat est l'espérance et l'ouverture de nos cœurs à une parole nouvelle que Dieu va prononcer. Ce silence a un contenu, il n'est pas vide. Il est le consentement à l'acte du Père. Ne l'étouffons pas de nos propres logories. Cet après-midi, nous verrons avec Marie comment elle-même a vécu ce jour du grand silence.
On vous propose maintenant c'est de méditer ce psaume 88, 87. Et puis également de reprendre les paroles du Christ, ces cinq affirmations et ces six questions dans Saint Jean, chapitre 18 et 19. On peut prendre un temps de lectio pour reprendre ces différentes paroles du Christ et plonger dans son silence.
Si certains veulent se confesser, je me tiendrai disponible au confessionnal maintenant.